Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 34 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique, avec clarté et sincérité, le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, et mon pronom est Elle. Je suis biologiste, chimiste et cofondatrice des soins bio, actifs et sensoriels Mastel. Ces soins bio Mastel se sont un peu comme mes petits bébés, et je vous distille quelques détails de mon aventure entrepreneuriale ici et là dans les épisodes de ce podcast. La crème Mastel et sa petite sœur l'huile Mastel sont toutes les deux tombées dans la marmite des antioxydants à leur conception. Donc elles cibleront avec vous les signes de l'âge. Si vous avez besoin de leurs aides, elles sont disponibles sur le site mastelcosmetics.com. Donc Mastel Cosmetics, c'est tout attaché et Cosmetics, c'est en anglais et au pluriel, donc T-I-C-S à la fin. Et avant de commencer, je voulais remercier Salomé SD qui a noté le podcast 5 étoiles et a commenté « Merci pour votre podcast, très bien construit et très intéressant ». Alors merci Salomé SD pour ces gentils mots et je vous rappelle à tous que si vous aimez ce podcast, laisser une note et un avis sur Apple Podcasts est la meilleure façon de le soutenir. Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre type de peau et état de peau. Nous allons voir quels sont les différents types de peau, quels sont les différents états de la peau et quels sont les actifs que l'on peut privilégier pour ceci. Alors pour commencer, j'aimerais faire la différence entre type de peau et état de peau. Personnellement, je fais la différence entre type de peau et l'état de la peau, parce que pour moi, le type de peau, c'est lié à votre génétique, donc il ne va pas changer au cours de votre vie, contrairement à l'état de votre peau, qui lui, peut changer selon vos hormones, vos humeurs, votre environnement, etc. Donc les différents types de peau, il y en a quatre selon moi. Il y a les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux normales. Donc les peaux grasses sont les peaux qui produisent en excès le sébum, donc la fine couche de gras à la surface de la peau. Alors vous savez que vous avez la peau grasse si votre peau brille ou luit naturellement. Si vous vous réveillez le matin et que votre peau brille et glisse sous le doigt, sur l'ensemble du visage, donc je parle pas de transpiration ici, ni d'application d'une huile de soin très riche avant de se coucher, hein. Je parle vraiment de votre peau qui fait ça naturellement, eh bien ça voudrait dire que votre peau est probablement grasse. Il se peut que vous avez aussi des points noirs ou des boutons, mais rassurez-vous, il est de coutume de dire que les peaux grasses vieillissent mieux. Au contraire, les peaux sèches sont quant à elles des peaux qui ne produisent pas assez de sébum. Et si la fine couche de gras à la surface de la peau n'est pas suffisante, eh bien ça peut altérer la fonction barrière de la peau. C'est-à-dire que la peau est plus perméable, il y a plus d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Plus de va-et-vient à travers la peau. Ça veut aussi dire que l'eau qui est dans la peau va s'évaporer plus facilement. Donc on parle d'une augmentation des pertes en eau transépidermiques, donc TEWL en anglais, pour Transepidermal Water Loss. Vous savez que vous avez la peau sèche, si elle tiraille, elle pèle un petit peu. Elle peut paraître terne également. Les peaux mixtes sont quant à elles des peaux qui sont grasses uniquement sur la zone T, donc c'est-à-dire le front, le nez et le menton, quasiment partout, à part sur les joues, le contour des yeux. Si vous vous réveillez le matin et que votre peau brille ou glisse sous le doigt, uniquement sur la zone T, c'est sûrement que vous avez la peau mixte. Les peaux normales sont quant à elles les rares peaux chanceuses qui produisent ni trop ni trop peu de sébum partout sur le visage. Donc vous ne brillez pas, vous n'avez pas de boutons et votre peau ne tiraille pas. Félicitez votre génétique, c'est trop cool. Alors maintenant, quels sont les différents états de la peau? Donc avant de commencer de parler des états de la peau, j'aimerais préciser que je vais mentionner certains états de peau qui se réfèrent à des maladies de peau et que par conséquent, je vous recommande toujours de consulter un dermatologue qui saura vous conseiller et vous prescrire des médicaments appropriés. Je le rappelle, mais par définition, un produit cosmétique n'aide pas à traiter une maladie, il ne peut pas avoir des revendications qui le laissent penser non plus. Donc si un cosmétique ne peut pas traiter une maladie, il peut aider à calmer un inconfort lié ou non à une maladie cependant. Alors je vais commencer tout de suite par les peaux sensibles ou inconfortables. Alors c'est une peau qui tiraille, qui démange, qui pèle, qui rougit, qui chauffe. Vous voyez cet inconfort sur la peau. Alors ça peut être dû à une réaction à un produit utilisé, donc vraiment très temporaire. Ça peut aussi être dû à votre type de peau. Si vous avez un type de peau sec, ça voudrait dire que la fonction barrière a été amoindrie, parce qu'il n'y a pas assez de sébum, et ça laisse passer les polluants ou les irritants à travers la peau. Ça peut également être dû à certaines maladies de peau, comme la rosacée ou aussi appelée couperose, qui concerne plutôt les peaux blanches, ou à l'eczéma qui démange beaucoup, par exemple, etc. Pour les peaux sensibles, les produits riches vous conviennent généralement mieux. Et si vous trouvez des actifs comme les céramides, ça va être parfait pour soutenir la barrière cutanée de votre peau, ou comme le bisabolol qui se trouve dans la camomille, ou le panthénol qui est un dérivé de la vitamine B5, qui ont tous deux des effets calmants. En cosmétique, on parle d'effets calmants pour ne pas dire anti-inflammatoires, parce que ça serait un terme qui est réservé pour les médicaments. Si c'est dû à une maladie de peau comme la rosacée, n'hésitez pas à voir un dermatologue qui pourra ou non vous accompagner vers des séances de laser ou au traitement un petit peu plus costaud. Et si les céramides vous intéressent, sachez que l'épisode 10 y est entièrement consacré. Personnellement, ce sont des actifs que j'adore et je les ai incorporés dans les soins Mastel. Donc la crème hydrate et embellit l'âge de Mastel pourrait vous correspondre totalement si c'est votre cas. Ensuite, deuxième état de la peau, ce sont les peaux qui présentent les signes de l'âge. Alors ce sont des peaux qui se relâchent, qui perdent un peu en fermeté et en élasticité, avec des rides ou des ridules au coin des yeux par exemple. La crème solaire est votre amie, ne l'oubliez pas, elle va vous protéger de votre pire ennemi qui est le soleil. Les antioxydants comme la coenzyme Q10, l'extrait de ginkgo biloba vous aident à diminuer les effets néfastes des radicaux libres également. L'actif hyaluronique de bas poids moléculaire peut vous aider à repulper votre peau. Et certains actifs tenseurs, comme l'algue rouge et l'arbre isotara, dont on a parlé dans l'épisode 20, tendent votre peau directement après l'application pour éliminer l'aspect des rides. Alors, une bonne hydratation est également recommandée. Et tous ces actifs que je viens de citer sont bien évidemment mes préférés, donc je les ai incorporés dans la crème Mastel. Il existe d'autres actifs, comme le rétinol, donc un dérivé de la vitamine A, qui est très reconnu dans l'industrie pour ses effets anti-âge. Par contre, attention au risque de sécheresse et d'irritation. Je le conseille pas aux femmes enceintes non plus ou à allaitantes. Donc attention, c'est un actif à utiliser avec parcimonie et je dirais avec délicatesse et connaissance. Ensuite, on va parler d'hyperpigmentation. Donc c'est une pigmentation inégale sur la peau, c'est-à-dire qu'il va avoir des taches sombres. Il existe différents types d'hyperpigmentation, donc comme le mélasma, qu'on appelle aussi masque de grossesse, qui va être dû à un changement hormonal notamment. Les taches de vieillesse ou taches de soleil, qui apparaissent souvent sur les mains, le visage ou les décolletés, enfin les parties les plus exposées au soleil. Ou l'hyperpigmentation post-inflammatoire, qui peut arriver après une inflammation de la peau, comme l'acné par exemple. Si vous avez de l'hyperpigmentation, je vous conseille d'utiliser une protection solaire, car le soleil est vraiment une cause principale de l'hyperpigmentation. Et vous pouvez également exfolier gentiment votre peau avec des AHA, donc des alpha-hydroxyacides, pour vous débarrasser, entre guillemets, des cellules de la peau trop pigmentées un petit peu plus rapidement. Donc vous pouvez agir sur la production du pigment également. Vous pouvez également agir sur la production du pigment de la peau, avec de l'acide azélaïque ou des extraits de réglisse notamment. Ensuite, on va parler des cernes. Alors les cernes, ce sont une pigmentation excessive de la paupière inférieure ou du contour de l'œil. Votre mode de vie peut impacter, je suis sûre que vous le savez. Donc veillez à dormir suffisamment, à avoir une alimentation saine et à vous protéger des UV avec de la crème solaire et des lunettes de soleil. Les crèmes pour les yeux avec de la caféine, de la vitamine C ou de l'acide azélaïque, la niacinamide également, donc vitamine B3, peuvent aider. Les cernes peuvent être d'origine génétique, donc si vos parents ou vos grands-parents en ont, il y a plein de cosmétiques qui vont vous aider quand même, mais vous pouvez vous tourner vers des procédures que votre dermatologue pourra vous conseiller, comme le laser notamment. Si les cernes sont génétiques, donc ça veut dire si vos parents ou vos grands-parents en ont, il y a peu de cosmétiques qui va totalement régler le problème. Vous pouvez consulter un dermatologue qui peut vous prescrire des procédures un peu plus costauds, comme le laser. Ah, ensuite, les peaux acnéiques. Donc à savoir que l'acné c'est une maladie de la peau, donc vous ne pouvez pas avoir de recommandation d'un cosmétique qui dit traiter l'acné. Les cosmétiques disent généralement qu'ils sont adaptés pour les peaux à tendance acnéique. C'est pas la même recommandation parce qu'on ne peut pas traiter une maladie en cosmétique. L'acné c'est une maladie de peau qui se caractérise par l'apparition de boutons comme des kystes, des nodules, des pustules ou des papules par exemple, et qui peuvent être localisés sur différentes parties du corps, comme le visage ou le dos. Les boutons sont rouges, dus à une inflammation de la peau, et peuvent être douloureux. Alors je ferai un épisode entier qui sera dédié à l'apparition du bouton, parce que l'apparition du bouton, on en a déjà parlé sur Instagram, mais c'est dû à 4 facteurs. Une surproduction du sébum, le pore qui se bouche, la prolifération de la bactérie C. acnes, et une inflammation de la peau. En plus de ces 4 facteurs, certaines études tendent à montrer que les radicaux libres ont un effet direct sur l'apparition des boutons. Alors selon moi, c'est important de comprendre le fonctionnement du bouton pour être indépendant dans les choix de ces cosmétiques. Pourquoi ? Parce que si cette problématique vous concerne et que vous connaissez un actif qui a une action antibactérienne, potentiellement, il peut agir pour réduire la prolifération de la bactérie C. acnes, qui est une cause du bouton. Donc ça peut fonctionner pour vous. Si vous connaissez un actif qui a une action exfoliante, il peut réduire les risques que le pore se bouche. Donc là encore, ça peut aider avec les peaux à tendance acnéique. Certains actifs ont aussi un effet direct sur ces quatre facteurs qu'on vient de citer, qui sont tous liés à l'apparition du bouton. C'est le cas notamment d'un extrait de grenade que j'aime beaucoup. L'acide salicylique est aussi reconnu dans l'industrie parce que c'est un actif liposoluble, ça veut dire que potentiellement il peut être soluble dans le sébum. Et il est bien connu parce que du coup il a une action antibactérienne qui va lutter notamment contre la bactérie C. acnes. Il a aussi une action kératolytique, donc c'est-à-dire qu'il va éviter l'obstruction du pore. Donc si cet actif vous intéresse, il est souvent mentionné comme BHA, donc qui est l'acronyme de bêta-hydroxyacide sur les textes marketing du produit. Bon, c'est pas totalement, c'est pas 100% un BHA d'un point de vue chimique, mais c'est comme ça que vous le retrouverez dans la majorité des contenus marketing. Pour revenir à l'acné, il est évident que ce n'est pas parce que vous avez trois boutons qui pointent le bout de leur nez, parfois, qu'il faut considérer votre peau comme à tendance acnéique. Avoir quelques boutons, c'est tout à fait normal, faut le dédramatiser, c'est la nature de votre peau. Okay, donc demandez-vous si vous avez mangé ou bu quelque chose d'inhabituel, peut-être que vous avez mangé trop gras ou trop alcoolisé. Demandez-vous où est-ce que vous en êtes dans votre cycle si jamais vous êtes une personne menstruée. Est-ce que vous êtes stressée en ce moment, etc. Il y a différents facteurs qui peuvent entraîner l'apparition d'un bouton. Ensuite, il y a les cicatrices. Elles sont dues à la guérison de liaisons profondes dans la peau. Donc notamment, attention à ne pas percer vos boutons parce que cela peut créer des liaisons. Et donc certains boutons, comme les kystes ou les nodules, eux vont entraîner une inflammation en profondeur, ce qui peut entraîner aussi les cicatrices. L'aspect des petites cicatrices en relief peut être amélioré avec des exfoliants, comme des actifs avec des AHA, donc alpha-hydroxyacide par exemple. Le meilleur moyen d'améliorer l'aspect des cicatrices, quand elles sont un petit peu plus importantes, c'est d'aller voir un dermatologue. Lui pourra vous conseiller des traitements plus costauds comme le laser. Ensuite, on va parler des pores dilatés. Donc les pores, ce sont les petits trous à la surface de la peau qui vont jusqu'aux follicules pileux, donc jusqu'aux poils, et qui aussi vont jusqu'aux glandes sébacées, donc les glandes qui produisent le sébum. Ils font partie intégrante de l'anatomie naturelle de la peau. Pourtant, il y a certaines personnes qui les considèrent comme un problème esthétique. Mais gardez en tête que vous êtes souvent les seuls à les voir, et souvent quand vous les regardez, c'est dans un miroir grossissant. Mais les gens avec lesquels vous interagissez, généralement ne se trouvent pas aussi près de vous pour les voir. À savoir que les pores n'ont pas de muscles pour se fermer ou s'ouvrir. Certains facteurs hormonaux peuvent impacter la taille des pores. Certaines ethnicités semblent avoir des pores plus larges également. Mais il semble difficile d'avoir une réelle action dessus, autre que l'acceptation. Donc si vraiment vous voulez essayer d'avoir un impact sur la taille de vos pores, je vous conseille de vous orienter vers des crèmes avec des dérivés de vitamine A, donc comme le rétinol. Attention avec le rétinol parce qu'il peut entraîner des sécheresses, des irritations. Pensez à porter une crème solaire le lendemain aussi. Ou alors vous pouvez essayer des exfoliations avec des AHA notamment, ce qui peuvent être une autre piste. Mais encore une fois, je ne suis pas 100% convaincue que les cosmétiques auront un effet direct sur la taille de vos pores. Ensuite, je vais mentionner rapidement la kératospilaire. Donc ça se caractérise par des toutes petites bosses de la couleur de votre peau, à la surface de votre peau, et qui apparaissent souvent sur le derrière du bras. On peut imaginer cela comme de la peau de poulet, entre guillemets, et c'est dû à un surplus de kératine qui se bouche à la sortie du poil. Donc vous pouvez privilégier l'application d'exfoliants avec des AHA notamment. Le psoriasis, c'est une maladie de peau inflammatoire et auto-immune qui se caractérise par une peau sèche, rouge et qui gratte et qui pèle. C'est notamment les cellules de la peau qui migrent trop vite à sa surface et qui s'entassent et du coup ça va laisser un aspect blanchâtre. Consultez absolument un médecin si c'est votre cas. Ne regardez pas des tutos sur internet ou quoi que ce soit. Allez voir le médecin, lui, qui vous prescrira quelque chose de vraiment adapté. Ensuite, le vitiligo, c'est une maladie chronique qui se caractérise par des grandes taches blanches à la surface de la peau, un peu comme de la décoloration. C'est dû au dysfonctionnement de certains mélanocytes. Donc allez voir le docteur encore une fois, il pourra vous confirmer le diagnostic. Ensuite, la dermatose papulosa nigra, qui concerne les peaux noires, va se caractériser par des petits points noirs plus ou moins petits sur la surface de la peau. Les médecins pourront conseiller des solutions pour les enlever si jamais c'est un problème esthétique pour vous. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et vous a aidé à identifier le type et l'état de votre peau. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et notamment les illustrations explicatives sur les différents types de peau sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Sur ce même site internet, vous pouvez aussi découvrir la crème et l'huile de Mastel. Ce sont des soins bioactifs et sensoriels. Vous le savez, mais selon certaines études, il y a 90% des signes de l'âge qui sont dus à notre environnement et non à notre génétique. Donc il est d'autant plus facile d'avoir un impact sur ces facteurs-là. La pollution, la fumée de cigarettes, le soleil endommagent votre peau et les antioxydants limitent ces dégâts. Lou et moi avons donc voulu proposer une solution avec des soins extrêmement concentrés en antioxydants. Et donc vous pouvez les retrouver, notre huile et notre crème Ginkgo sacrée sur le site mastelcosmetics.com. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur les AHA, les alpha-hydroxyacides, donc les acides de fruits que l'on a mentionnés un petit peu dans cet épisode. Bye!